retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé, un 18 mars 2024. On n'est pas tellement loin de vous annoncer les dates officielles de l'événement en présentiel qu'on va faire avec le podcast Hypercroissance. On a eu de la nouveauté un peu, mais il reste des choses à confirmer. Donc, tant qu'à faire une annonce, d'une annonce, d'une annonce, d'une annonce qu'il va y avoir un événement, on va attendre encore un peu. Mais tout ça pour vous dire que ça avance. Je vais en parler un coup, Jonathan, aujourd'hui. Sinon, toi, comment ça va?
Ça va super bien, Antoine. Aujourd'hui, dans une slow week, donc une pré-vacances, je quitte sous peu en vacances au Maroc, endroit où on était supposé aller ensemble, mais qui finalement s'est ramassé à San Francisco dernièrement. Mais j'avais décidé de prendre une semaine de congé qui est mi-travail, mi-congé. Donc, j'appelle ça une slow week. Donc, une journée sur deux officielle, plein de meetings. Et l'autre journée, je peux occupé à mes choses personnelles et faire avancer des petits projets. Donc, dans ma slow week cette semaine.
Et tu vas où au Maroc? Dans le désert, à Marrakech? Où est-ce que tu vas?
Et c'est une excellente question parce que je quitte en voyage avec un de mes amis de longue date avec lequel je pars régulièrement en voyage pack-sac. Et cette fois-ci, honnêtement, on a interrogé Gemini à savoir quels seraient les 10 pays potentiels qu'on pourrait aller. Et en descendant la liste, on a vu Maroc, on s'est regardé, on a dit on y va, parfait. 20 minutes plus tard, nos billets étaient bookés. Et à partir de là, il nous reste l'itinéraire à faire. Donc, c'est sûr et certain qu'on va aller dans le désert. On t'a écouté beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup d'articles de blog, mais c'est certain que je vais aller au moins une nuit ou deux dans le désert. Et là, on a commencé à noter nos endroits favoris à visiter, mais le parcours n'est pas encore fait. Donc, si vous nous écoutez, ça va jeudi, dans le fond, en écoutant ce podcast-là. Je ne serai pas encore là-bas et je serai probablement en train de faire un itinéraire optimisé. Donc, n'hésitez pas à aller me suggérer des endroits à ne pas manquer sur LinkedIn. Et si vous avez des contacts locaux aussi là-bas, des fois, qui peuvent maximiser l'expérience. On aime beaucoup se coller à ce qui se passe. On y va durant la période du Ramadan. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc, ça vient avec son lot de variables à surveiller et l'autre variable qui peut être plaisante aussi. Donc, on va vivre la culture, je pense, à son meilleur pendant deux semaines.
Ah ben ça va peut-être nous faire un petit podcast quand tu vas revenir. Tu vas nous dire comment que ça se passe, le commerce, le business là-bas. Et tu vois, c'est drôle que tu en parles parce que tu vois, moi, je viens d'arriver aujourd'hui à Montréal. Donc, on fait ce podcast le 18 mars 2024. Il va sortir le 22 mars 2024, si ma mémoire est bonne. Donc, un petit peu jet-lagué aussi sur le voyage. Mais bon, je voulais absolument qu'on fasse cet entretien-là aujourd'hui, ou plutôt cette discussion-là. Quelques nouvelles qui ont capté ton attention. On a encore nos favoris qui reviennent. TikTok, Elon Musk. Donc, par où qu'on commence?
Je commencerai par TikTok, qui est de retour sur la scène par rapport à se faire bannir par les États-Unis. Donc, je te laisserai peut-être l'expliquer un petit peu plus parce que tu connais, je pense, un peu mieux que moi la politique des États-Unis, mais il y a eu un vote la semaine passée, si je me trompe, qui est en cours de bannir TikTok sur le terrain des États-Unis.
Bien sûr. Ben, je pense qu'il faut revenir aussi à plusieurs points qui ont été dits dans le passé. Pourquoi les États-Unis particulièrement veulent adopter cette loi-là à la base? Ça part simplement du fait que de plus en plus, théoriquement, selon ce qu'ils disent, ils n'ont pas mis cette information-là publique à tous. Ils auraient de l'évidence comme quoi l'information, le data des Américains est utilisé par le CCP, qui est le Parti communiste chinois, pour bien entendu essayer de faire de la manipulation sur ce que les Américains peuvent penser un petit peu de ce qui se déroule dans le monde. Il y a eu beaucoup, beaucoup, suite à toute la guerre qui s'est déroulée en Israël et en Palestine, il y avait eu beaucoup d'informations, beaucoup de malinformations plutôt, qui étaient sorties sur TikTok, surtout sur la population américaine, comme quoi qu'on leur montrait davantage de vidéos de gens qui étaient pro pour la Hamas et qui étaient contre Israël. Donc, de plus en plus, il y a des pays qui sont très craintifs par rapport à ce que les médias sociaux peuvent faire, au final, contre une population. Parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir. On l'a vu avec les élections de 2016 aux États-Unis, on l'a vu un nombre de fois impressionnant dans les dernières années. Donc là, mettez-vous dans la peau des Américains qui, eux, habituellement, contrôlent tous les médias sociaux. Les entreprises américaines possèdent les Facebook, les Instagram de ce monde, les Snapchat de ce monde, et ils savent l'impact que ça a. Les X de ce monde, le Twitter de ce monde. Et on le sait, on l'avait vu avec les Twitter Files, à quel point le gouvernement américain, il y avait, je pense, des dizaines et des dizaines d'employés à temps plein du FBI qui travaillaient avec l'ancienne administration de chez Twitter pour mettre à off des messages qui apparaissaient sur la plateforme. Parce qu'ils savent l'impact que ça a, ils savent comment que ça peut influencer l'intérêt des électeurs, l'intérêt de monsieur et madame tout le monde. Donc là, maintenant, le jeu s'inverse. c'est de se dire, ah, qui est au contrôle de tout ça? Est-ce que c'est vraiment, cette fois-ci, le Parti communiste chinois qui est derrière les manettes de ce qui se déroule au niveau de l'algorithme de TikTok? Et c'est ça qui fait peur au gouvernement américain. C'est qu'ils ne peuvent rien faire, ne peuvent pas contrôler comment tout ça est géré, comment tout ça est mis de l'avant. Et bien entendu, la Chine est vue comme un adversaire des États-Unis. Ce n'est pas vu comme un pays allié comme le Canada peut l'être. Donc, tu mets tout ça ensemble, tu as un gouvernement qui sait fondamentalement l'impact des médias sociaux. Ils travaillent avec les plateformes des médias sociaux pour toutes les raisons que j'ai mentionnées plus juste avant. Ils savent que ByteDance, qui est la société mère qui possède TikTok, a, selon leur évidence à eux, des liens très, très proches avec le CCP, le Parti communiste chinois. Ben là, c'est sûr et certain que 1 plus 1 égale 2. Et là, ils commencent à essayer de trouver des politiques à mettre en place pour contrôler un petit peu ce qui se déroule. Donc là, oui, tu l'as bien dit, Jonathan, il y a une loi qui a été votée à la Chambre des représentants américains qui, par la suite, doit être adoptée, pardonnez-moi, par le Sénat, ce qui n'est pas encore fait, qui a énormément de nuances, mais essentiellement parle de soit bannir TikTok aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si TikTok est banni aux États-Unis, il peut y avoir des répercussions excessivement rapides avec le Canada, pour la simple et bonne raison qu'on est un allié. Ou encore, revenir à une discussion qui avait eu lieu, ou plutôt même des points qui avaient grandement avancé dans le passé, c'est-à-dire de faire en sorte que les serveurs de ByteDance, de TikTok, soient hébergés aux États-Unis avec une entreprise technologique locale. Oracle avait été mentionné dans le passé comme quoi qu'il pourrait être en charge de cet hébergement-là de serveurs. Encore une fois, ça peut être excessivement compliqué d'aller analyser tout ça, voir si vraiment l'information est simplement hébergée sur le territoire américain et non sur le territoire chinois. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que ça peut être très, très difficile de se rendre là ici et qu'un ban, pardonnez-moi l'anglicisme, de TikTok est peut-être davantage à prévoir. Donc, c'est ce qui se déroule et les choses vont, on va voir comment qu'elles vont avancer. Et en même temps, on peut comprendre d'où est-ce que ça vient dans l'optique où Facebook, Instagram, Snapchat sont bannis en Chine. Donc, l'argument inverse peut se faire en se disant pourquoi un réseau social chinois serait autorisé au Canada quand tous les réseaux sociaux américains sont bannis en Chine.
Et pensez-y un instant, là, c'est 150 millions d'Américains qui sont sur la plateforme. Selon le site whatsthebigdata.com, le taux d'utilisation, le nombre de temps moyen par usager par jour, et j'espère que tu es bien assis sur ta chaise, Antoine, là, c'est 1,5 heures. Moi, je lis ça, puis honnêtement, je pensais que c'était moins que ça. Là, j'avais 30-45 minutes en tête. Et là, vous avez pratiquement un tiers de la population que vous pouvez influencer 1 heure et demie de temps par jour, des mois avant des élections critiques qui s'en viennent en avant. Donc, ça devient une arme de masse incroyable pour essayer d'influencer un peuple vers une direction ou vers une idéologie. Ils peuvent carrément rentrer dans le quotidien des gens puis leur pousser du contenu qui peuvent influencer leurs décisions puis influencer leur position un petit peu partout, autant sur la politique que sur des idéologies. Là. Donc, c'est assez impressionnant. Et je pense que c'est ça le fondement même du problème. C'est que vu qu'il y a effectivement apparence de collusion avec le Parti communiste chinois, mais là, c'est un petit peu la Chine qui a une influence sur plein de pays autour de par la quantité de temps que les gens passent devant ces mini-vidéos-là. Et là, ils peuvent favoriser certaines vidéos pour favoriser certaines pensées au final. Là.
Oui, et surtout, ce qui est important de mentionner ici, c'est que TikTok est banni en Chine dans sa forme actuelle. Il y a un TikTok version un petit peu 2.0 avec énormément de nuances contrôlées où est-ce que le contenu que tu vas voir ne sera pas le même contenu que tu verrais avec la plateforme normale. Donc, ça en dit long. Ça en dit très, très long. C'est vraiment pas le même type de plateforme qu'on est capable de voir en Occident ou dans d'autres pays. Donc, clairement, ils comprennent l'impact que ça peut avoir comme plateforme. Encore une fois, il n'y a aucune preuve. Puis je ne sais pas s'il peut vraiment avoir une preuve qui est mise au public comme quoi que le Parti communiste chinois est derrière ça. Et oui, ce qui est important de dire aussi, c'est que TikTok, dans sa version actuelle, comme on peut voir aux États-Unis ou au Canada, est banni en Chine. Donc, ça en dit long un petit peu sur ce que le gouvernement chinois considère de la plateforme, l'impact que ça peut avoir. Et oui, t'as amené un excellent point également. C'est une année d'élection. C'est une année électorale aux États-Unis. Donc, ils savent qu'il y a énormément de choses qui peuvent se dérouler. Encore une fois, il y a beaucoup de choses aussi pour le public à mieux comprendre parce que bannir une plateforme à 150 millions d'utilisateurs, et moi, je me mets dans la peau des gens qui ont bâti une organisation sur la plateforme TikTok, les créateurs de contenu qui gagnent leur vie avec ça. C'est énorme, là. C'est énorme, TikTok. C'est une économie en soi. Donc, simplement bannir sans démontrer au public des preuves irréfutables comme quoi que le Parti communiste est derrière les manettes de cette plateforme-là, c'est un peu dur. C'est un peu dur et c'est un peu intense même.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de memes qui se sont promenés sur les différents médias sociaux dans les dernières journées où ce qu'on voyait des influenceurs avec des casquettes McDonald's et ça disait simplement « Voici qu'est-ce que les influenceurs vont faire dans les prochaines journées ou prochaines semaines une fois que TikTok va être banni. Ben, » ils vont retrouver une job normale et aller travailler chez McDonald's. Maintenant, ouais. Au niveau du vote, on parle de 352 contre 65. Donc, ça a été quand même assez écrasant comme vote. Et ma perception, c'est parce que les élections s'en viennent qu'ils décident de pousser et faire ça pour essayer qu'il y ait le moins possible d'influence sur les élections. Mais le temps va passer tellement vite. Ils vont avoir un certain nombre de jours pour essayer de prouver que les serveurs, je pense, sont aux États-Unis, mais ils n'y arriveront pas. On se rappelle que Trump avait favorisé un peu ce mouvement-là il y a quelques années de ça. Il y avait Oracle qui avait été dans l'équation pour être un petit peu le partenaire de la nouvelle entité qui aurait été formée là, pour le TikTok américain. Ça l'a disparu par la suite, suite à ce que Trump ne soit plus au pouvoir. Il faut se rappeler que Trump était contre TikTok il y a quelques années de ça. Trump s'est fait bannir pendant 2 ans de temps des plateformes de Meta, dont Facebook et Instagram. Mm-hmm. Donc, le discours de Trump aujourd'hui, il n'est plus contre le fait que TikTok soit banni parce qu'il dit que ça va laisser toute la place à Facebook.
Ben oui.
Qui est maintenant rendu son ennemi. Donc, il charge son fusil d'épaule. C'est toujours hallucinant de le voir aller tirer dans toutes les directions.
Ben,
maintenant, si ça l'arrive, j'ai hâte de voir. C'est certain que les gens chez Meta sont en train de travailler sur un équivalent de TikTok qu'ils vont lancer. Mm-hmm. La même manière qu'ils ont fait avec Threads versus X et Twitter. Je suis convaincu que c'est déjà prêt. Il s'est prêt à être lancé sous peu. C'est probablement ce qui va arriver. Là.
Ben, je pense qu'au-delà de lancer une nouvelle plateforme, ça va juste avoir une accélération encore plus intense sur Instagram. C'est-à-dire que c'est vraiment... Les deux plateformes se battent pour les parts de marché avec les jeunes en ce moment et pour du contenu vidéo court. Donc, effectivement, si TikTok est réellement banni aux États-Unis, Meta va agir comme un raz-de-marée ici, va prendre des parts de marché, va prendre l'endroit où est-ce que tout le monde passait énormément de temps. C'est sûr maintenant que ça va se dérouler. Donc, effectivement, ils sont dans une position intéressante.
J'amènerai maintenant sur, encore une fois, Elon Musk, mais il vient de sortir une nouvelle assez intéressante. Il est en poursuite contre OpenAI concernant le fait que OpenAI n'est plus très open, n'est plus très ouvert. On se rappelle que la prémisse d'OpenAI et la raison pourquoi Elon Musk a aidé à fonder OpenAI, c'était pour rendre accessible en open source au public la force et l'intelligence de l'intelligence artificielle. On a vu ce qui s'est passé dans les dernières années, les derniers trimestres avec OpenAI. Elon Musk dit que ça l'a tout sauf du open chez OpenAI. Il propose même de renommer l'entreprise pour Super Close AI for Profit. Donc, une entité complètement fermée qui est là juste pour le profit et non pour ce qu'il était supposé d'être à la base. Donc, Elon Musk a lancé son initiative Grok AI, G-R-O-K. Il a annoncé la semaine passée qu'il allait rendre open source une grande partie du travail de Grok AI. Et là, ça s'est enflammé sur X, qui est anciennement Twitter. Il y a des gens qui sont même allés dans l'extrême de dire que ça faisait pas de sens de rendre open source une technologie aussi forte. Reste encore à voir s'ils sont rendus loin chez Grok ou non. Il y en a qui comparaient ça à dire, est-ce que ça aurait fait du sens dans le temps d'ouvrir open source le projet Oppenheimer, qui était le projet un petit peu de la bombe nucléaire? Je trouve que c'est extrêmement extrême comme cas, mais il mentionnait que ça allait donner à des nations compétitrices des États-Unis accès à une technologie qui pourrait être mal utilisée. Et là, ça s'est enflammé pour dire qu'il y avait des gens qui étaient seulement là pour le profit et l'argent et qu'ils ne voulaient pas rendre ça disponible à l'humanité. Donc, encore une fois, Elon Musk qui fait un pas vers l'avant de manière agressive et je pense que ça va bénéficier un petit peu pour tout le monde. Mon opinion et ma perception des choses, je pense d'ici un mois, il va probablement avoir des choses accessibles qu'on va pouvoir tester et on pourra refaire un petit podcast là-dessus pour dire en quoi ça peut être utile dans vos organisations lorsqu'il va être lancé par Grok AI en mode open source.
Il y a déjà beaucoup de modèles qui sont en open source. Llama 2 de Meta est en open source. Claude d'Anthropic, est-ce qu'il est en open source? Il faudrait que je regarde pour lui. Je suis pas certain à 100%.
Je pense que non.
Mais en tout cas, le modèle de Facebook, de Meta, est open source. Paradoxalement, il y a OpenAI qui, lui, est un petit peu moins ouvert. Donc oui, il y a des très bonnes chances que la majeure partie des gros modèles d'intelligence artificielle dans le futur, les modèles LLM, comme on les appelle, soient de plus en plus open source. Et c'est ça un peu qui se déroule entre Elon Musk et OpenAI en ce moment. Il y a une poursuite. On en avait parlé. Je pense qu'on en avait parlé sur le podcast. Mais si on n'en a pas parlé, on le redit. Elon Musk, il poursuit OpenAI pour brille un petit peu de contrat, brille un petit peu une mission originale. Parce que à la base, Elon Musk a investi entre 30 et 40 millions de dollars pour que OpenAI soit lancé comme une organisation à but non lucratif. Ultimement, on le sait, les choses ont changé, sont allés ouvrir une entité pour générer du profit, pour aller chercher encore plus de fonds externes, pour améliorer leur technologie et ultimement être capable d'être un joueur important dans l'industrie qui est capable de challenger les Google et les autres grands joueurs technologiques de ce monde. À ce moment-là, il y a eu des clashs entre Sam Altman et Elon Musk. Elon Musk a toujours été l'idole de Sam Altman. Ça a beaucoup changé depuis. Elon Musk est parti par la suite en 2019. Et là, on sait ce qui s'est déroulé ensuite. Ils ont ouvert une ligne, comme je l'ai mentionné, pour faire de la profitabilité. Ils ont bâti une meilleure technologie. Et il y a eu le tsunami qui s'est déroulé en 2022 quand ils ont lancé ChatGPT. Donc, la question à se poser maintenant, c'est est-ce que Elon Musk est vraiment en train de partir en croisade contre OpenAI à cause un petit peu du bris de la mission initiale, du bris de contrat initial, ou il est simplement peut-être un petit peu jaloux de ne pas être resté dans le portrait quand l'organisation a maintenant une valorisation de 90 milliards de dollars? Il y a ça aussi à se poser comme question.
Effectivement. Et pendant qu'on discute, j'ai été vérifié, Anthropic et le modèle Claude n'est pas open source. Fait intéressant, si j'interroge Bing Chat, qui est sur OpenAI, il ne veut absolument pas me répondre, mais sur Gemini, il me donne la réponse. Et ça, je ne sais pas si Antoine, tu as commencé à bouger d'un modèle à l'autre, mais honnêtement, j'utilise beaucoup plus Gemini que ChatGPT oh, wow. et Bing Chat maintenant. Beaucoup plus rapide à répondre et à date, les réponses sont quand même assez intéressantes et pertinentes. Il y a encore des petits cas aussi qui n'est pas capable de donner les sources. Ça semble un bug encore à l'interne qu'ils n'ont pas réglé. Mais je vois de mon côté, pour mon utilisation, plus d'efficacité et de rapidité avec Gemini qu'avec les autres modèles. Gemini est gratuit sous la forme sous laquelle moi je l'utilise et je le compare souvent à ChatGPT 4 qui est payante. Donc, si vous utilisez ChatGPT 4 en mode payant, testez Gemini, donc gemini.google.com qui est disponible depuis notre retour de San Francisco suite
Bien
à nos visites chez Google.
Donc, voilà. Nos amis chez Google vont être contents que tu utilises Gemini. La dernière fois, j'ai eu une rencontre avec eux. Ils m'ont dit, là, utilisez simplement Gemini. Je ne veux plus jamais entendre parler de ChatGPT. Donc, c'est bien, on va le dire tout haut. Jonathan, est-ce qu'on a d'autres choses au-delà de Elon Musk, de ce qui se déroule un petit peu au niveau de TikTok? Avais-tu d'autres nouvelles pour notre audience?
Dernière nouvelle qui pourrait être intéressante de parler. Quand on était à San Francisco, on a été témoin de véhicules taxis qui n'y avait pas de conducteur à l'intérieur.
Bien
Donc,
sûr.
On parle de la compagnie Waymo, W-A-M-O. Et je me demandais si c'était disponible un petit peu en temps réel et où ce qu'ils en étaient. Puis on en a vu passer là, directement à côté de où qu'on marchait à San Francisco. Donc, c'était dans les premiers qu'ils testaient. Il y a eu des incidents dans les dernières semaines où il y a des gens qui se sont rassemblés autour des véhicules et le véhicule est programmé pour arrêter s'il y a un humain qui passe proche. Et il y a eu des incendies. Les gens ont allumé des incendies sur les véhicules pour protester contre les robots taxis. Et ça n'a pas arrêté Waymo. Ils annoncent aujourd'hui qu'ils vont lancer à Los Angeles leur service entre Santa Monica et le centre-ville de Los Angeles. Donc, une deuxième ville test qu'ils vont pousser. Et on sait qu'il y a de l'action dans ces villes-là. Donc, si ça fonctionne bien dans ces villes-là, fort à parier qu'ils vont déployer par la suite à grande échelle. Donc, j'ai l'impression d'ici un 6 à 9 mois, on va probablement avoir un grand déploiement de la compagnie Waymo qui va permettre de faire diminuer, je pense, les coûts de déplacement en taxi Uber. Ça serait intéressant à voir qu'est-ce qui va arriver avec Uber à ce moment-là parce qu'on ne sait pas où ce qu'ils en sont avec ce genre de technologie-là. Ils vont être obligés de probablement soit se rallier à une compagnie qu'à la Waymo et compagnie. Je pense que c'était peut-être du data là-dessus avec Volvo. Je pense qu'ils avaient...
Mais ils ont déserté le champ de tout ce qui est hardware. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il doit... Je pense que si Uber fait s'intègre dans cette catégorie-là, ils vont le faire en partenariat un petit peu comme un... Je sais pas si l'exemple est bon ici, mais comme un Microsoft qui investit chez OpenAI ou comme une organisation qui va investir dans une autre pour aller chercher des parts de marché ou avoir accès à une certaine technologie. Et depuis que Dara, qui est le CEO de Uber depuis 2018 ou 2019, quand ils ont mis à pied Travis Kalanick, fondateur de Uber. Dara a vraiment fait un très, très gros travail de ménage et il a arrêté toutes les lignes d'investissement chez Uber qui n'étaient pas rentables. Et fondamentalement, celles qui ont écopé le plus, ce sont les lignes de hardware. Et ils ont vraiment gardé tout ce qui est software. Donc, eux, ils investissent beaucoup sur des taxis autonomes, sur des scooters autonomes, sur énormément de technologies de la sorte. Ils en sont sortis pour rester uniquement au moment où on se parle dans le software. Font-ils des investissements dans certaines entreprises qui sont en train de développer le tout peut-être, mais à l'interne, chez Uber, ce n'est plus un sujet d'actualité.
J'ai un petit peu de data, par contre, supplémentaire. Uber a noué un partenariat avec la compagnie Motional en 2022. Et Motional est une co-entreprise de Hyundai et Aptiv. Donc, Hyundai fournit le matériel automobile, Aptiv est plus du côté logiciel. Et ils ont présentement des véhicules qui se déplacent de manière autonome à Las Vegas et ou à Santa Monica en Californie. Donc, c'est probablement ce qui explique pourquoi Waymo essaie d'aller attaquer ce territoire-là en deuxième lieu, fortement pour essayer de ralentir un petit peu à ce moment-là l'initiative de Uber. Mais il y a un risque un petit peu pour le modèle d'affaires potentiellement dans la forme actuelle au final.
Ben, je pense que c'est ça. C'est qu'une entreprise ultimement est capable d'évaluer où est-ce qu'ils sont bons et où est-ce qu'ils ne sont pas bons. Et dans les endroits qu'ils ne sont pas bons, c'est beaucoup mieux d'aller faire des partenariats et d'aller investir dans des entreprises que d'essayer de bâtir la propriété intellectuelle à l'interne. Ça peut être très, très compliqué. Bon, des belles nouvelles, Jonathan. Autre chose avant que je te laisse filer?
C'est complet, Antoine, pour cette semaine.
Jonathan Éveillé, merci beaucoup encore une fois pour ces belles nouvelles de la semaine. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.